Bonjour tout le monde, je suppose que vous avez déjà eu des cours sur Hanouka, mais je voudrais quand même me poser quelques petites questions qui vont peut-être élucider certains problèmes. Des questions toutes simples, hein, toutes bêtes. C'est pourquoi qu'il y a la fête de Hanouka? À quoi elle sert cette fête? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient commémorer? Alors c'est pas très clair, en tout cas, bon, en tout cas c'est une fête qui n'est pas mentionnée dans le Tanakh, et donc elle aurait besoin d'être expliquée, quoi. Tout ce qui est écrit dans le Tanakh, on sait la fête de Pourim, par exemple, et ben, il suffit de lire dans le rouleau d'Esther et on sait pourquoi. La fête de Pessah, ben, il suffit de lire dans la Torah et on voit la sortie d'Égypte, tout est clair. Mais pour ce qui est de la fête de Hanouka, c'est pas très clair, puisque ce n'est pas mentionné dans le Tanakh. Alors on s'attendrait, si ce n'est pas mentionné dans le Tanakh, que ce soit mentionné au moins dans la tradition orale. Je regarde dans la Mishnah, zéro, rien sur Hanouka. En tout cas, c'est vrai que Hanouka est mentionné 6 fois dans la Mishnah, mais c'est mentionné comme une chose qui est censée être connue, comme une évidence. On ne sait pas pourquoi, mais la Mishnah dit, à Hanouka on fait comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis dans les Braïtot, on voit qu'il y a un devoir assez surprenant, c'est d'allumer des lumières. On ne sait pas très bien pourquoi non plus. Et puis la Mishnah dit qu'il faut lire le Hallel à Hanouka, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Tout ça n'est pas écrit. Pourquoi ce n'est pas écrit? Pour une raison très simple, c'est que pour nos ancêtres, la raison de Hanouka était une évidence. Donc ce n'était pas la peine d'écrire, on fait Hanouka parce que. C'est oiseux, c'est évident. C'est comme si je vous disais, par exemple, Yom HaAtzmaout, c'est à cause de l'indépendance. Mais que veut dire le mot Yom HaAtzmaout? Le jour de l'indépendance, on sait très bien que c'est à cause de l'indépendance. Donc il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, et c'est évident. Voilà. Maintenant le problème, c'est que les générations passant, les gens risquent d'oublier la raison de Hanouka. C'est la raison pour laquelle Maïmonide, Rambam, a jugé nécessaire de donner en introduction des règles de Hanouka la raison de la fête. C'est tout simple. Et dans toutes les autres fêtes que Maïmonide explique, il ne dit pas la raison de la fête parce qu'elle est écrite en toutes lettres dans la Bible. Mais quand il s'agit de Hanouka, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, alors Maïmonide, qui est un grand éducateur, un grand pédagogue, nous écrit la raison de Hanouka. Tout simple, hein? Voilà. Alors je vais lire ici, dans les Ilchot Hanouka de Maïmonide, en fait c'est les règles de Pourim et Hanouka, les deux premiers chapitres sont consacrés à Pourim, les deux derniers à Hanouka. Donc, à quel chapitre c'est Hanouka? Chapitre? Si sur les 4 chapitres, c'est les 2 derniers, alors où commencent les règles de Hanouka? Au chapitre 3, exactement. Alors au chapitre 3, Alaha Aleph, nous dit Maïmonide la chose suivante. Bebaït Cheni, à l'époque du deuxième temple. Keshemalche Yavan, Gazrou, Gezerot, à l'Israël, lorsque les rois de Grèce, des rois grecs, ont fait des décrets infâmes contre Israël. D'abord, on sait donc que la lutte de Hanouka, c'est une lutte contre des Grecs, contre des rois grecs. C'est intéressant parce que si vous regardez ce texte comme il a été reproduit dans le Mishnah Broura, par exemple, livre beaucoup plus tardif, proche de nous, écrit au XXe siècle, au XIXe siècle, pardon. Mais vous voyez qu'il y a écrit « Keshe malchou malche risha » lorsqu'on régnait des rois méchants, des rois d'iniquité. Or, on ne sait pas qui sont ces rois. Est-ce que ce sont des rois juifs, des rois grecs? C'est-à-dire toute la dimension de lutte entre deux peuples, la lutte nationale, est absente. Si tu veux bien enlever, par exemple, ta main là qui cache d'autres personnes derrière toi. Voilà, tu la baisses comme ça, c'est bien. Non, tu n'es pas obligé, tu peux dormir, mais simplement, ça cache les autres. Ça va. Quand on est dans le Mishnah Broura, on ne sait pas si ce sont des juifs ou des grecs. Et la dimension nationale de la lutte est absolument absente. En tout cas, Maïmonide nous dit, lorsque des rois grecs ont fait des décrets contre Israël, ou Bitlou d'Atam, ont interrompu leur religion, Velo Unichu Otam, La Asok, Batora, et ne les ont pas laissés étudier la Torah, ouva mitzvot, et accomplir les mitzvot. Ou fashtu yadam bemamonam ou ivnotehem, et se sont emparés de leurs biens et de leurs filles. Venichnesu laechal, et se sont introduits dans le sanctuaire, ou partsubo peratzot, et qu'ils ont fait des brèches. Vetimu ataharot, qu'ils ont souillé ce qui était pur. Vetzar lahem le Israël meom upenehem, et tout cela était très dur pour Israël à cause d'eux. Ulchatsum, lachats gadol, et qu'ils les ont très fortement pressurés. Donc ça allait mal, quoi. Ad shirichem alehem Elohe avotenu, jusqu'à ce qu'ils soient pris en miséricorde par le Dieu de nos ancêtres. Veoshi'am miyadam veitzilam, il les a sauvés d'eux et les a libérés. Ah bon, c'est-à-dire Dieu a libéré Israël. Comment? Vegavru bene Hashmonaï Kohanim Hagedolim. Et alors les fils de Hashmonaï, les grands prêtres, ont eu le dessus. Veharagum, et ils les ont tués. Veoshiu Israël miadam, et qu'ils ont sauvé Israël de leurs mains. Ah, deux fois le verbe Oshiu. C'est-à-dire que la première fois il dit Dieu a sauvé Israël, après il dit les Hashmonaïm ont sauvé Israël. Alors décide-toi, c'est Dieu ou les Hashmonaïm? Hein? Vous avez compris ma question? La réponse? Donc c'est la même chose. Ça veut donc dire, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu sauve? Ça veut dire que Tsahal a eu la victoire. Quand Tsahal a la victoire, ça veut dire Dieu sauve. D'accord? C'est identique, d'après Maïmonide. Ve'emidu melech mina kohanim, et ils ont instauré un roi de parmi les prêtres.
Ça, c'est le Rambam.
Ça, je lis ici le Rambam. Hein? Je lis le Rambam. Vechazra malchut le Israël, et l'indépendance est revenue à Israël. Yeter al mataim shana ad achorban hasheni, plus de 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple. Voilà. Donc c'est quoi la raison de Hanouka? Parce qu'on a eu la victoire et qu'on a restauré l'indépendance pendant 200 ans. Voilà. Ouais, qui? Ouais, mais qu'est-ce qui manque là-dedans au fait? La fiole, d'accord? Il se fiche de notre fiole. Il a oublié de parler de la fiole d'huile. Pourtant, on m'a raconté, quand j'étais au jardin d'enfants, qu'il y avait une histoire de fiole d'huile à Hanouka. Ça alors? Ne vous en faites pas, il en parle aussi. Urche Gavrou Israël aloivem veibdoum. Et lorsqu'Israël a surmonté ses ennemis et les a détruits, Bekafé Bechodesh Kislev Aya, c'était le 25 du mois de Kislev. Venichnesu la Echal, ils sont entrés dans le sanctuaire. Velo Matsu Shemen Taor Bamigdash, on n'a pas trouvé d'huile pure dans le temple. Et la Parechad, si ce n'est une petite fiole. Velo Ayabo Ladlik Elayom Mechad Bilvad, ils ne servaient à allumer qu'un seul jour. Veidlikum Imenu Nerot Amarachash Monayamim, et il a servi à allumer les lumières de la menorah pendant 8 jours, atchekatchu zetim, veotsiu shemen taor, jusqu'à ce que l'on concasse des olives pour en faire une huile pure. Donc, il y a également un deuxième événement qui est subsidiaire au premier, c'est qu'il y a eu le miracle de la fiole. D'accord? Mais tout d'abord, la raison de la fête, d'après Maïmonide, c'est la libération d'Israël. D'accord? On n'insiste pas assez là-dessus. On oublie parfois, c'est devenu une fête folklorique, presque magique, autour d'une fiole d'huile. En fait, Maïmonide nous dit non, c'est la libération nationale qui est l'essentiel. Petite question, comment est-ce que Maïmonide en est arrivé à dire plus de 200 ans? Yeter al-Mataim Shanim, d'où est-ce qu'il a tiré ça? Dans nos sources historiques, nous avons un midrash qui s'appelle Seder Olam Rabba. Dans le Seder Olam Rabba, il est dit la chose suivante, que la royauté des Hashmonaïm a duré pendant 103 ans, et que la royauté de la dynastie hérodienne a duré 103 ans aussi. 103 plus 103 égale 206. C'est de là que Maïmonide a tiré son plus de 200 ans, n'est-ce pas? Maintenant, petite question, on fait donc la fête de Hanouka à cause des Maccabées et des Hérodiens. Les Maccabées et les Hérodiens, c'était les pires des rois que nous avons eu pendant toute l'histoire. Sauf la première génération, c'était tous des tzadikim. Après, c'est devenu des Rechaïm, de toutes sortes. Comment? Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que ça allait très mal pendant 200 ans. Et c'est à cause de ça qu'on fait la fête de Hanouka, mais ça ne va pas à la tête. En vérité, ça veut dire que il vaut mieux être sous la domination des pires des Juifs que sous la domination des goïms. C'est ça que nous enseigne pour ici Maïmonide, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Maïmonide, pour lui, c'est évident que le fait qu'Israël soit indépendant, c'est en soi une raison de joie. Alors c'est quoi cette histoire de fiole? Est-ce qu'on fait une fête à cause d'une fiole? Vous connaissez certainement tous l'histoire racontée dans le livre de Melachim à propos du prophète Elisha aux Champs-Élysées. Enfin, Elisha en français, on dit Élysée. Le prophète Elisha se rend dans la maison d'une femme très pieuse et très sainte qui a des dettes à n'en plus finir. On veut prendre ses enfants en esclavage. Il lui reste un tout petit résidu d'huile dans sa maison. C'est ça qui lui reste. Le prophète lui dit, amène tous les ustensiles vides que tu as dans la maison, emprunte des ustensiles vides chez tes voisines, amène tout ça à la maison, ferme la porte et commence à verser l'huile. Miracle, il y a des hectolitres d'huile. Ça remplit tous les ustensiles. Et le prophète lui dit, voilà, maintenant tu vas vendre cette huile, tu vas payer tes dettes et tu vas vivre avec ce qui reste. Donc c'est une fortune, plein d'huile. Est-ce qu'il y a une fête qui commémore cet événement? La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est un événement particulier qui concerne une personne particulière, tandis qu'on ne fait de fête que pour des événements qui concernent le peuple tout entier. Or, cette histoire de la fiole d'huile, il faut voir en quoi ça concerne le peuple tout entier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il y a eu ces deux événements, une fête a été instituée. S'il y a deux événements, il faut faire donc combien de choses dans la fête? Deux, n'est-ce pas? Une pour commémorer la libération nationale et une autre pour commémorer le miracle de la fiole. Eh bien, regardons ce que dit Maïmonide à ce propos. Umi pnezé, c'est à cause de cela. Itkinu chachamim sheboto ador, que les sages de cette génération ont institué. Sheyiyu shmonat yamim ha'elu shetrilatam bekafé bechislev. Yemisimcha vehalel, que ces huit jours qui commencent le 25 du mois de Kislev soient des jours de joie et de hallel. Donc, la première mitzvah de Hanouka, c'est le hallel. La deuxième, Umadlikim bahem anerot ba'erev alpitre abatim, et on allume les lumières le soir à la porte des maisons, bechol laïla velaïla mishmonat alelot, à chacune des huit nuits de ces huit jours, les harot ou les galotes à Nes pour montrer et révéler le miracle. Ve'ayamim ha'elu hem anikraim Chanouka, et ce sont ces jours-là qu'on appelle Chanouka. Oui? C'est pas obligé dans l'ordre, mais en général, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a un grand principe, al-rishivo al-rishon rishon, d'al-acharon acharon, on amène le premier pour le premier et le deuxième pour le deuxième. Après, on va prouver que c'est vrai en plus. Mais disons que pour l'instant, dans une première lecture, il semblerait donc que le Hallel vient pour la libération nationale et les lumières de Hanouka pour en souvenir de la fiole. Il y a une certaine logique. Fiole, d'huile, lumière, ça va ensemble. C'est pas obligatoire. Mais le problème, c'est de savoir d'où est-ce que nous savons qu'il faut dire le Hallel à Hanouka. Hein? Où est-ce que c'est écrit qu'on fait le Hallel quand il y a l'indépendance? Non? Oui, mais de ce que le Rambam, il le sait, lui. Ben, c'est écrit dans la Gemara, tout simplement. Dans la Gemara, dans le traité de Pessachim, Kuf Yud Zayin Amoud Aleph, 117a, il est dit que les prophètes, lors de la sortie d'Égypte, qui c'est les prophètes lors de la sortie d'Égypte? Moshe, Aaron et Myriam, ont institué qu'à chaque fois qu'il y aurait libération, il faut dire le Hallel. Et Rachid dit là-bas, Kegon Chanouka, comme par exemple à Chanouka. C'est donc un devoir qui remonte très ancien, très très loin. C'est lors de la sortie d'Égypte qu'a été institué le Hallel à chaque fois qu'il y a indépendance. Donc, ça prouve que Rambam a raison. Que j'ai raison quand j'interprète le Rambam comme étant la première chose pour la première chose. D'accord? Petite question, si c'est vrai tout ce que je vous raconte, quelle est la mitzvah la plus importante de Hanouka? Le Hallel. Le Hallel. Et l'histoire des lumières, ça c'est du folklorique plutôt, mais c'est moins important que le Hallel. Vous avez compris? C'est contraire à l'imagerie populaire qui met au centre de Hanouka l'allumage des lumières. C'est vrai que ça fait plus d'effet que de réciter le Hallel le matin. Parce que pas tout le monde arrive à se lever. C'est l'hiver, il fait froid, les gens restent dans leur lit. D'accord? Donc les gens font plus attention aux lumières. Mais en vérité, c'est le Hallel qui est l'essentiel de la fête. Vous avez compris? Très bien. Et donc, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette histoire de la fiole d'huile, Birklal, à quoi ça sert? Bon, ça c'est, disons, le premier point que je voulais mettre donc en évidence. La fête de Hanouka est une fête d'indépendance. Cette histoire de la fiole d'huile, où est-ce que Maïmonide l'a trouvée? Dans la Guémara. Où ça, dans la Guémara? Dans Maseret Shabbat. C'est vrai. Dans le deuxième chapitre de Maseret Shabbat, on parle de l'histoire de la fiole d'huile. Il y a seulement un petit problème, c'est que c'est pas vrai. Non, je vais lire, si vous voulez, le texte dans la Guémara dans Shabbat. Comment? Non, pas du tout. Vous allez voir. Non, c'est vrai que l'histoire du miracle est racontée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, je reprends mes paroles. L'allumage, le miracle est raconté. Ce qui n'est pas raconté, c'est qu'il faut allumer des lumières à cause de ça. D'accord? Je vais vous lire ici dans le traité de Shabbat. Extraordinaire, il y a toujours le livre dont on a besoin. Non, c'est une règle. C'est une règle.
Il n'y a pas de chaleur.
C'est absolument... C'est incroyable. Quoi? Vous avez ce texte? Ah ben c'est très bien.
Voilà.
Voilà, c'est très bien. Alors, je lis ici le texte de la Guémara. Très très bien, très très bien. Dafka Falaf Amoudel. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Et alors... La Guimara dit Tanur Rabbanan Bisrim Khamisha Bixev Yomid Hanukkah Kmadir Inun. Le 25 qui se lève, c'est les 8 jours de Hanukkah. On n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre ni de jeûner. Chez Kshenichnesu Yevanim Laechal, Timukol Shvanim Shubaechal, lorsque les Grecs sont entrés dans le sanctuaire, ils ont souillé toutes les huiles qu'il y avait dans le sanctuaire. Urche Gavra Malchut Zrachmona Vinitzrum. Et lorsque la royauté de la maison de Chashmonaï les a vaincus, Badku. Velo Matsu et la Parechat Shel Shemen, on a trouvé qu'une seule fiole d'huile, Shaya Mounar Brotamo Shel Kohen Gadol, qui était scellée par le sceau du grand prêtre, Velo Ayabo et la Dikom Echad, et ça ne pouvait servir qu'à allumer un seul jour, Vena Sabonez, Vidikum Milushon Yamim, il y a eu un miracle, ils ont allumé pendant 8 jours. Les Shana Achet, et l'année d'après, Kvaoum, ils ont institué ces jours-là, Vera Saoum Yamim Tovim, d'en faire des fêtes, Behalel ou Voda, en restant le Halel et des louanges. Hein, et l'allumage des bougies. Ou à l'eau, il n'y a pas. D'accord? Alors, de ce que le Rambam a tiré, que l'histoire de l'allumage des bougies, c'est à cause de la fiole. Bah, évident. Maintenant, cette histoire donc du miracle qui est racontée dans la Guémara n'est pas racontée dans la Mishnah, comme on l'a si bien dit, et ce n'est pas raconté non plus dans Flavius Joseph. Flavius Joseph, qui était de la famille des Hashmonaïm, dit que lors de la libération du temple, etc., on a institué une fête de 8 jours qu'on a appelée la fête des Lumières, dit-il. Mais il ne dit pas pourquoi. Pourtant, on s'attendrait à ce qu'ils le disent. Bizarre, quand même. Bon. C'est probablement, donc, que l'histoire du miracle de la fiole d'huile n'était pas considérée comme quelque chose d'important à l'époque. C'est vrai que les gens étaient au courant, il y a eu un miracle, mais ils ne liaient pas l'essence de la fête au miracle de la fiole. Peut-être parce que c'était évident. Le problème, c'est que la Guémara pose une autre question, qui, elle, est surprenante. Elle dit, on fait une bénédiction au moment d'allumer les lumières. N'est-ce pas? Et on dit Asher Kedesha Nubimis Sota, Wissiwa Anuladik Ner Hanouka. Il nous a sanctifié par ses commandements, il nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. La Guémara demande, mais Heichan Sivanu, où est-ce que nous avons reçu cet ordre-là? C'est pas écrit dans la Torah. Avant de donner la réponse de la Guémara, je voudrais poser une autre question. Pourquoi est-ce que la Guémara n'a pas posé une autre question? Pourquoi la Guémara n'a pas demandé la même chose pour la bénédiction du Hallel? Pour le Hallel, on dit aussi Asher Kideshanu Bemitzvot Avetzivanu. Pourquoi est-ce que la Guémara ne demande pas où est-ce que nous avons reçu la mitzvah de faire le Hallel? Parce que c'était évident. C'était évident puisqu'on savait que ça venait de Moshe. Et donc, on n'avait pas besoin de poser cette question. Mais pour les Lumières, on avait besoin de poser la question. Et maintenant, quelle est la réponse donnée par la Guémara? Où est-ce qu'on a reçu l'ordre d'allumer les Lumières de Hanouka? Hein? Dans Tetzavé, les lumières de Hanouka, ou dans Tetzavé, c'est les lumières du temple, pas les lumières de Hanouka. Hein? Oui, mais qu'est-ce qui nous a ordonné de le faire? La Guémara demande où est-ce que ça a été ordonné. Donc la Guémara ne peut pas répondre à la Guémara. Mais Aaron, il avait le devoir d'allumer la menorah du temple, pas celle de Hanouka. Alors la Gemara raconte, la Gemara donne deux réponses, et c'est très rare que la Gemara donne deux réponses pour la même question. Elle donne deux réponses. La première, c'est l'otasour. Tu ne dois pas t'écarter. C'est quoi? C'est un verset dans Parashat Kitetsé, dans Shoftim, dans lequel la Torah nous dit qu'il ne faut pas s'écarter des instructions données par les Chachamim. C'est-à-dire, c'est donc, si c'est vrai, ça veut donc dire que le Sanhedrin s'est réuni à l'époque des Hashmonaïm et a institué le devoir d'allumer des lumières. Donc on dit, Asher Kitchan ou Bemitsot Avitsivanon, il nous a sanctifié par ses commandements, il nous a ordonné d'écouter les Chachamim qui nous disent d'allumer les lumières de Hanouka. C'est donc une takana, mais des rabbanan. Si on va selon cette première réponse, et c'est en général la réponse qui est donnée pour toutes les mitzvot des rabbanan pour lesquelles nous nous disons vetsivano. Le problème, c'est que la Gemara n'est pas satisfaite par cette réponse, elle donne une autre réponse. Il est dit, She'al avicha viagetra. Interroge ton père, il te dira ce qu'il faut faire. Ah, ça veut donc dire que l'allumage des lumières de Hanouka n'a pas été institué par le Sanhedrin, mais que c'est une habitude qu'a pris le peuple. Lors de la libération du temple, il y a des gens qui ont commencé à allumer des lumières. Et comme mon père l'a fait, je dois le faire moi aussi. Qui m'a dit que je dois le faire moi aussi? C'est la Torah qui l'a dit. Donc, Vitzivanu, il nous a ordonné de faire ce que notre père fait, et donc il y a une mitzvah. Ça veut donc dire que lors de la première génération, ça a été fait sans bracha, et la deuxième génération a eu le devoir de faire la bracha, de faire ce que font nos parents. C'est-à-dire que la fête de Hanouka vient d'un, disons ce minag, vient d'un élan du peuple et pas des chachamim. Ah. Oui, donc c'est au niveau du klal. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui l'ont fait. Le problème, c'est pourquoi est-ce que les gens l'ont fait? Par exemple, moi je connais quelqu'un, je connais une femme qui, lors de la libération du Kotel pendant la guerre des six jours, quand elle a entendu que le Kotel venait d'être libéré, elle a allumé des bougies. Qui lui a dit de le faire? Personne. D'accord? Mais c'est quelque chose de spontané. Allumer des bougies, t'as pas le droit d'allumer des bougies? Pourquoi elle pourrait pas d'initiative? Si j'ai envie d'allumer des bougies, je peux pas, moi? C'est pas une mitzvah, mais simplement, c'est... elle a senti qu'il était nécessaire d'allumer des lumières. D'accord? Donc elle a le droit. Elle n'a pas institué. D'ailleurs, personne n'allume des bougies aujourd'hui pour la libération de Jérusalem. Mais ce qu'il y a, c'est que la fête de Hanouka, probablement, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, je me demande pourquoi est-ce que nos ancêtres ont décidé donc d'allumer des lumières à Hanouka. Ben, c'est très simple. Il y avait eu, parmi les décrets infâmes des Grecs, il y avait l'interdiction de faire la circoncision. Or, la Guémara dans Maseret Shabbat nous dit que, à l'époque où on interdisait de faire la circoncision, les gens faisaient quand même la circoncision, ils le faisaient en secret. Où est-ce qu'ils le faisaient? En secret, dans leur maison. Maintenant, comment est-ce qu'on savait que dans telle maison allait avoir lieu une circoncision? Parce qu'on cachait la naissance, évidemment. Parce que sinon, les Grecs allaient compter 8 jours. Mais, ce qu'on faisait, le soir où était né l'enfant, on allumait une lumière à la fenêtre. Et le deuxième jour, 2 lumières. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, le soir, on voit 8 lumières à la fenêtre. Les gens savent, ah, c'est que demain, il y a une circoncision ici. Ou bien peut-être qu'ils ont fait au début 8 lumières, après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça dépend des synagogues. Disons que c'est pas écrit, c'est une supposition. C'est-à-dire, la Guémara dit qu'on allumait des lumières la veille de l'abri. Or, il y a des midrashim qui lient les 8 jours de Hanouka aux 8 jours de la circoncision. Donc, c'est probable que c'est ça qui se passait. Et donc, les Juifs se sont dit, ben, maintenant que nous sommes libérés, nous allons continuer l'allumage des lumières en souvenir d'eux. D'accord? C'est une sublimation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui commence par un élan spontané du peuple, et c'est ça qui les amène à faire la fête de Hanouka. Mais dans cette histoire d'élan spontané, c'est pas n'importe quoi. Comment est-ce qu'a commencé la révolte? Quel est l'événement fondateur? C'est quoi? Tu dis? Quoi? Yehoudite? Quoi Yehoudite? Alors, il y a ici deux récits contradictoires. Il y a un récit qu'on trouve dans le livre des Maccabées. Il y a un récit qu'on trouve dans le Midrash. Dans le livre des Maccabées, on raconte que dans le village de Modi'in, arrive une petite troupe grecque avec un petit cochon, une petite idole de Zeus et un petit autel. Et arrive donc là le groupe armé, ils mettent l'autel au milieu de la place, ils mettent la statue de Zeus, et ils amènent le petit cochon. Et ils disent, celui qui sera prêt à sacrifier ce cochon à Zeus sera enrichi par le roi, honoré et tout ça. Alors il y a un juif qui s'amène, et alors Matityahu, qui dirige le village, dit, dans mon village à moi, on ne fait pas des choses pareilles. Il prend de la potion magique, il tue le juif, il tue le cochon, renverse l'autel et détruit l'idole. Il dit, Mil Hashem Elai, qui est avec Dieu, qu'il vienne à moi. Il massacre les Grecs et il commence la révolte. Voilà, c'est comme ça que c'est raconté dans le livre des Maccabées. Le problème, c'est que c'est le contraire de ce qui est écrit. C'est pas le contraire, c'est autre chose qui est écrit dans les Midrashim. Dans les Midrashim, on raconte une histoire assez dramatique. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le décret du droit de cuissage. C'est quoi le droit de cuissage? C'est que le gouverneur grec de la région avait décrété que toute femme vierge qui se marierait passerait la première nuit avec lui et après seulement elle irait chez son mari. Et bon, c'était assez grave, mais ce n'était pas contraire à la halakha. C'est-à-dire que quand une femme se fait violer de cette manière, elle n'est pas tenue de donner sa vie pour ne pas le faire. Et donc, ça passait. Les rabbins n'ont rien fait contre ça. On raconte qu'un jour, la fille de Elazar, le Hashmonaï, devait se marier. Tout Jérusalem est venu. Le Sanhédrin est venu. Les notables sont venus. Le grand prêtre est venu. Tout le monde est venu. Et tout le monde était content parce que la viande était halak. Et que les végétaux étaient sans verre et que les danses étaient séparées, qu'il y avait un mur avec des tessons de verre qui séparaient les hommes des femmes, et tout le monde était très content et disait Mazal Tov. Il y avait seulement une personne qui faisait la tête qui n'était pas très contente, c'était la mariée. Pourquoi? Parce qu'elle savait que la nuit, elle avait passé une expérience traumatisante. Alors, elle a fait quelque chose absolument incroyable, elle a déchiré ses vêtements et s'est déshabillée devant tout le monde. Grande atteinte à la tzniout. Alors ses frères, effarés de ce qui se passe, veulent la tuer, sortent leurs épées pour la tuer. Et ils lui disent, enfin tu n'as pas honte? Alors elle leur dit, et vous alors, vous n'avez pas honte vous non plus? Vous savez très bien ce qui va se passer ce soir. Ah, ils se sont dit, c'est pas bête. Si déjà on a tiré nos épées, alors allons tuer le gouverneur. Ils tuent le gouverneur, c'est comme ça que commence la révolte. C'est-à-dire, si déjà on tue quelqu'un, pourquoi ne pas tuer le gouverneur au lieu de tuer notre sœur? D'accord? Donc, vous avez compris? Ouais. Mais donc, ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que la révolte a commencé par une réaction anti-halakhique. C'est-à-dire, si on s'était contenté de la pure halakha, eh bien, cette situation aurait continué pendant très longtemps. Jamais il y aurait eu la révolte. C'est-à-dire qu'il y a ici un élan qui vient de la spontanéité du peuple. C'est ce qu'on appelle le zèle national qui a entraîné la révolte. Ça explique pourquoi est-ce que il y a une raison de penser que l'allumage des bougies ne s'est pas fait par institution des hachamim, mais par décision du peuple. Vous avez compris? Bon. Ça, c'est le premier point. Je voudrais continuer. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que la libération du temple, enfin le nettoyage, la purification du temple plus précisément, et avec la fête d'inauguration, a été décidée le 25 du mois de Kislev. Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm ont décidé de faire cette fête-là le 25 Kislev? Regardez dans le livre des Maccabées, vous verrez que Jérusalem a été libérée 2 semaines avant. Alors donc, ils avaient le temps de se préparer. Pourquoi décider le 25 Kislev? Pas du tout. Dans le livre des Maccabées, il y a écrit en toutes lettres que c'était parce que 3 ans auparavant, le 25 du mois de Kislev, Antiochus, le roi grec, avait inauguré dans le Beth Amikdash son temple païen, un temple pour Zeus olympien, et il avait souillé l'autel en y sacrifiant des porcs, et c'était pour lui une fête d'inauguration de son temple païen dans le Beth Amikdash. Aha. Donc, c'était pour lui sa fête de Hanouka. C'était sa fête d'inauguration. Hanouka veut dire inauguration. Et donc, pour faire le contre-pied de la fête de Hanouka d'Antiochus, les Hashmonaïm ont fait leur fête de Hanouka à la même date. Donc il y a une Hanouka antérieure à Hanouka, celle d'Antiochus. En hébreu, Antiochus. En grec, Antiochos. Oui, il y avait des tas d'histoires absolument incroyables avec Alkimos et Yasson et tout ça. Ouais, Jason. C'est encore du Lashon Hara, cette histoire de Jason. En tout cas, maintenant, ce qui me tracasse, c'est mais pourquoi est-ce que Antiochus a décidé de faire son inauguration le 25 qui se lève ? Par hasard ? Le Maharal de Prague dit « Les grandes choses ne se passent pas par hasard. » Or, ce qui concerne le Beth Amikdash, c'est une grande chose. Le Beth Amikdash est une grande chose.
C'est grave, chose.
Tout simplement parce qu'il a voulu profaner la fête de Hanouka. Bien sûr, mais ce n'est pas la même fête. Il y avait une fête antérieure. Et vous avez qu'à lire dans le livre de Haggai, en français Hagé, H-A-2-G-E, accent aigu E, dans le livre de Haggai, au chapitre Bet, qui est un chapitre très intelligent malgré son nom. Et vous avez là-bas, le prophète Haggai vivait au début de l'époque du deuxième temple. Il nous dit la chose suivante. Une seconde. Au verset 10. Be'esrim ve'arba la'tishi. Lors du 24e jour du 9e mois. C'est quoi le 24e jour du 9e mois ? Le 24 qui se lève. C'est-à-dire un jour avant Hanouka. Bishnat shtaim le Dariavesh. En l'an 2 de Darius. Darius, l'empereur perse. Hayad varashem ve'at Haggai anavi les morts. La parole de Dieu fut adressée à Haggai le prophète en ces termes. Et alors, bon, je vous passe tout ce qu'il dit là-bas, des choses très intéressantes qui concernent la pureté de l'huile, entre autres. C'est-à-dire, 200 ans avant Hanouka, on parle de la pureté de l'huile la veille de Hanouka. Et il dit finalement, « Sache que bientôt, je vais renverser le monde entier, il y aura des guerres, etc. etc. » Et l'expression qu'il dit, « Simuna levafrem minayom azevamala, prêtez bien attention à partir de ce jour et après. » C'est après ce jour-là, c'est donc à partir du 25e. Miyom Isrim Ve'arba Lateshi, à partir du 24e jour du 9e mois, les Minayom Asher Yusad et Chalashem, à partir du jour où a été fondé le sanctuaire. Simul et Vafrem, prêtez attention. Ah, donc le 24e du jour, du mois de Kislev, c'était le jour où on avait fini de fonder le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain ? Les sacrifices. C'est-à-dire que les sacrifices ont été, les sacrifices d'inauguration du Beth Amikdash ont commencé le 25 du mois de Kislev. C'était donc l'inauguration du deuxième temple. Donc chaque année, le 25 Kislev, les Juifs fêtaient l'inauguration de ce temple. Et donc cette fête existait déjà. Antiochus a voulu la profaner. Donc il a fait son inauguration à lui, le 25 Kislev. Et donc les Hashmonaïm ont fait leur inauguration à eux, le 25 Kislev. C'est donc la troisième fête de Hanouka. Oui ? Quoi encore ?
Quoi serait-ce pour l'inauguration de Antiochus et pas de notre ancienne inauguration de...
Ben, parce que dans le livre des Maccabées, il est dit qu'ils ont fait cette inauguration à cause de la profanation qui a eu 3 ans auparavant. Maintenant, cette profanation a été faite à cause de la fête qui avait 200 ans auparavant. Maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi les prophètes à l'époque du deuxième temple ont fait l'inauguration du deuxième temple, le 25 qui se lève ? On dit qu'il y a eu celle du Mishkan, mais ça ne tient pas debout. C'est-à-dire, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais le problème, c'est que l'inauguration du Mishkan, d'après la Torah, a eu lieu le 1er Nissan. Alors, on dit que le 25 qui se lève, déjà tous les matériaux nécessaires étaient déjà prêts. Mais c'est rétroactivement qu'on dit ces choses-là. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Maintenant, imaginez-vous. Je voudrais poser, avant d'imaginer, d'abord, je vais poser une question d'Alaha. Vous connaissez la mitzvah d'amener des bikurim, le commandement d'amener des prémices dans le temple, des 7 espèces de la terre d'Israël. Et donc, à chaque fois que j'ai, par exemple, je ne sais pas, la première grenade de mon verger de grenadier, ou la première figue de mes figuiers, etc., je les amène au Beth Amikdash. Ça s'appelle les bikurim. À quelle date on les amène ? À Shavuot. Faux. C'est à partir de Shavuot qu'on peut les amener. C'est-à-dire, le jour de Shavuot, on présente un pain qu'on appelle Lechem Bikurim, on le présente dans le temple, et à partir de ce jour-là, on peut amener les prémices dans le Beth Amikdash. Et quand est-ce qu'on les amenait? En général, à Soukhot. Tout simplement parce que les grenades, les figues, les dattes, ça pousse en été. Les raisins, il y en a déjà à Shavuot. Mais enfin, le reste, ça pousse après. Ça mûrit après. Et donc, comme c'était la fête qu'on venait au Beth Amikdash, la fête de l'engrangement, Chag HaAsif, on amène toute la récolte dans les greniers, eh bien, c'était le moment donc d'amener les bikourim. En général, donc, les bikourim étaient amenés à Soukhot, et non pas à Shavuot, contrairement à ce qu'on pense. Le problème, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a des fruits qui n'ont mûri qu'après Soukhot? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il peut les amener jusqu'au 25 qui se lève, dit la Mishnah. Le 25 qui se lève, donc, c'est donc la limite de la mitzvah minatora, c'est donc le 25 qui se lève. Ah, ça veut donc dire que cette fête est significative à l'avance. Mais pourquoi le 25 qui se lève? Parce qu'il y a un fruit parmi les sept espèces d'Eretz Israël qui ne mûrit qu'après Soukhot. C'est lequel? Il n'y a pas de grenade à Rosh Hashana? Alors, quoi? Le blé? Non, le blé, c'est bien. L'olive. Les oliviers ne donnent leurs fruits qu'après Soukhot. À quelle époque? Dans les deux semaines avant Hanouka. C'est à peu près. En ce moment, c'est la récolte des oliviers. Maintenant, imaginez une société agricole. Pas le Crédit Agricole. Je parle d'une. La société, c'est le peuple. Le peuple, dans l'Antiquité, le peuple juif était un peuple essentiellement agricole. Que fait une société agricole qui vient de finir de récolter les olives? Ben, elle fait une fête. Une fête de combien de temps? De 8 jours, évidemment, comme la fête de Soukhot. La fête de Soukhot signale l'engrangement. Là, on a fini avec les olives, on va faire une fête de 8 jours. Quel sera le motif central d'une fête de l'olivier? On allume des lumières et on fait des beignets. Oui, et des beignets, bien sûr, des aliments à l'huile. Et comme c'est l'hiver et qu'il fait froid, alors on reste à la maison, on joue avec la toupie. N'est-ce pas? Donc, il est tout à fait probable qu'il y avait une fête des lumières bien antérieure à la construction du deuxième temple. Et c'est pour ça que les prophètes qui présidaient à la construction du deuxième temple ont dit il faut faire l'inauguration ce jour-là. Mais pourquoi? Le premier temple n'a pas été inauguré le 25 qui se lève. Le premier temple a été inauguré le 8 Tishri. Alors qu'est-ce qui se passe là pour le deuxième? Tout simplement. Est-ce qu'il y avait la présence de la Shekhina dans le deuxième temple ou pas? La Gemara nous dit que la Shekhina n'a pas résidé dans le deuxième temple. D'un autre côté, le prophète nous dit, le prophète Zacharie nous dit, Ineniba veshachanti betocher, je viens pour résider en toi, Nehum Hashem, parole de l'Éternel. Contradiction entre le prophète et la Gemara? Non. Il y avait, à l'époque du deuxième temple, un tout petit peu de Shrina microscopique. Il y avait un petit peu. La preuve, par exemple, c'est qu'il n'y avait pas les Urim Vetumim, mais il y avait quand même, par exemple, la lumière centrale de la menorah brûlait 24 heures sur 24, par miracle, jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik. Et de temps en temps, ça se reproduisait. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de présence divine dans le temple, mais un tout petit peu. C'est ce qui explique également le miracle de la fiole d'huile, qui est un petit miracle. Et quand vous avez si le monde était un monde dans lequel la Shekhina ne se manifestait pas, c'était un monde de lumière ou d'obscurité? D'obscurité, mais avec un petit peu de Shekhina quand même. Alors ça a l'air de quoi? Une petite lumière dans l'obscurité. C'est ça, à ça que ressemblait le deuxième temple. C'est pour ça que les prophètes ont dit, il faut l'inaugurer au moment où il y a cette fête des lumières qu'on allume dans l'obscurité. Vous avez compris? Ah. Mais alors dans ce cas-là, il faut comprendre qui est le premier qui a allumé des lumières à Hanouka. Quel est le premier homme à avoir allumé des lumières à Hanouka? Évidemment, le premier homme. Adam Arisha. C'est écrit en toutes lettres dans le traité de Avodah Zarah, d'Afret Amoud Aleph, 8a. On raconte une histoire absolument incroyable. La Guimara veut nous expliquer d'où viennent les Saturnales. Vous savez ce que c'est les Saturnales? C'est une fête qui était en cours à Rome. Et c'est important pour la Guémara de savoir quand est-ce que c'est les Saturnales, parce qu'il y a des règles, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les fêtes des Goïms, et on n'a pas le droit de faire de commerce avec eux pendant leurs fêtes, et même 3 jours avant et 3 jours après, enfin il y a des tas de trucs. Bon, donc c'est important de savoir quand est-ce que ça se passe, et la Guémara nous raconte d'où ça vient. Adam Arishon a péché le jour de Rosh Hashanah. À partir de Rosh Hashanah, c'est l'automne, les journées deviennent de plus en plus courtes, les nuits de plus en plus longues. Adam Arishon, qui ne connaissait pas le phénomène, est effrayé. Il pense que l'obscurité va envahir le monde. Il dit, c'est de ma faute. Parce que l'obscurité va envahir le monde et il va revenir au tohu vavohu. Et c'est ça, la mort qui a été décrétée contre moi. Il s'installe et il pleure et jeûne pendant 8 jours. Après arrive le moment du solstice d'hiver. C'est quand le solstice d'hiver ? 21 décembre. Et il voit que le jour va en s'allongeant. Combien de temps ça prend pour voir que le jour s'allonge ? Il faut 3 jours. Et il se dit, ah, arrivé le 24 décembre, il dit, c'est donc un effet de la nature, Minago shel Olam. Et alors il décide de faire une fête de 8 jours en l'honneur de la lumière, à partir du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. C'est ça l'origine des Saturnales, dit la Guémara. Il l'a fait, lui, pour l'honneur de Dieu, et les goïms s'en sont servis pour l'idolâtrie. Et ces 8 jours de Saturnales sont devenus par la suite la fête de Noël chez les chrétiens, mais c'est d'une origine romaine. Quoi ? Et le Nouvel An, tous ces machins-là. Enfin, ils ont fait naître Jésus ce jour-là, parce que c'est pour la lumière, enfin, tout ça. Mais en tout cas, c'est donc une fête païenne qui a son origine chez Adam Arishon. Maintenant, quand est-ce qu'est tombé le 24 décembre, l'année de la première année du monde ? C'était évidemment le 25 Kislev, puisque en moyenne, c'est là que ça tombe. Donc, Adam Arishon a fait une fête des Lumières le 25 Kislev. Ah, bon oui, mais si c'est vrai, ça veut donc dire qu'il y avait plus de lumière dans le monde à partir de ce moment-là. Qui c'est qui a décidé qu'il y aurait plus de lumière dans le monde à partir du 24 décembre ? Non ? C'est le créateur du monde, puisqu'il a fait l'axe du globe terrestre de telle sorte qu'il y ait des saisons. Et donc il y a une journée plus longue, une journée plus... il y a des équinoxes, il y a une journée plus longue, une journée plus courte, et 2 journées égales. Ça, c'est donc dans l'ordre de la création. C'est donc Dieu qui allume de la lumière à partir du 25 qui se lève. D'ailleurs, c'est écrit en toute lettre. Vous connaissez le livre de Bereshit, non ? Bereshit, vous allez compter. Bereshit, bara. Elohim, et, Hashamaim, ve'et, ha'aretz, ve'aretz, aïta tohu, ça fait déjà donc 10, vavohu, ve'chosher, al, pene, tehom, ve'ruach, Elohim, merachefet, al, pene, ça fait déjà 20, ha'maim, va'yomer, Elohim, yehi, or, ah, le 25e mot, lumière. D'accord ? C'est dans le 3e verset, c'est parce que c'est dans le 3e mois de l'année. Donc on voit bien que la fête a déjà son origine dans l'ordre de la création. Et donc l'événement historique n'est pas l'origine de la fête. C'est la fête qui est à l'origine de l'événement historique. C'est pour ça qu'il y a eu un miracle avec de la lumière, une fiole d'huile, ce jour-là. D'accord ? Mais alors, si c'est vrai tout ce que je vous dis, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est du baratin, quand je vous ai dit que la fête était une fête de libération nationale et pas à cause de la lumière. On voit au contraire que la lumière est très importante dans cette fête-là. Mais c'est très simple. Depuis la création du monde, jusqu'à l'époque de la libération du temple, jusqu'à l'époque des Hashmonaïm, la lumière était le thème central de 25 qui se lève. Et puis quand il y a eu la libération nationale, l'histoire de la lumière est restée en arrière-plan, et c'est la libération nationale qui est devenue importante. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la destruction du temple. Et depuis, nous sommes entrés en galoute, et pendant la galoute, nous sommes revenus dans la nuit, et c'est le thème de la lumière qui est devenu le centre de la fête. Comment ? Non, non, pas du tout. Ça a changé à partir de Hanouka en l'année 1917. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka en 1917 ? Non, la déclaration Balfour, c'était avant. Le 24 qui se lève de l'année 1917, le général Allenby s'est emparé de Jérusalem. Ce qui était la première concrétisation pratique et politique de la déclaration Balfour. Or, la déclaration Balfour, c'était la fondation d'un foyer national juif en Eretz Israël. C'est donc là qu'a commencé le retour de l'indépendance. La première nuit passée par Allenby à Jérusalem, 25 Kislev, il y a d'ailleurs une stèle et un monument qui rappelle cet événement. Derrière la Tachana Merkazit à Jérusalem, c'est là qu'il y a une sorte de monticule là-bas, et c'est là-bas qu'Allenby a reçu les clés de la ville. Et donc, le 25 du mois de Kislev, on a retrouvé la dimension de la liberté nationale à partir de la, du 25 qui se lève. Bon, tout cela est très beau. Mais est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un rapport entre indépendance nationale et lumière? La vérité est que oui, c'est très simple. Contre qui la guerre a été faite? Contre les Grecs. Or, les Grecs sont, d'après les Midrashim, l'obscurité même. Puisque la Torah nous dit que le monde était en désordre lors de la création du monde et que ce désordre est à l'origine des empires différents, des différents empires qui dominent l'histoire. Tohu vavohu vechoshech al pene tehom, tohu et bohu et obscurité au-dessus de l'abîme. La Gemara nous dit, le Midrash nous dit, tohu c'est Babel, Babylone. Bohu c'est la Perse. Choshech, l'obscurité, c'est la Grèce qui obscurcissait les yeux d'Israël. Ah, et tehom c'est Rome, hein? C'est Babel. Théum, l'abîme. L'abîme. Oui, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a ici un texte du Maharal très important qui s'appelle Ner Mitzvah qui explique tout cela. Ce qu'il y a, c'est que les Chachamim ont identifié la Grèce comme étant l'obscurité. Et moi, qui suis un homme tout simple, je vais vous poser une question toute bête. Comment est-ce qu'on peut dire de la Grèce en particulier que c'est l'obscurité? C'est obscurantiste de dire une chose pareille. Parce que ceux qui ont un peu fait des études au lycée savent que c'est la Grèce qui a amené la lumière dans le monde. La, comment? Quoi? La philosophie? Il y avait aussi du métaphysique, hein? Il y avait aussi du physique, du métaphysique. Ils ont amené la lumière de la connaissance, ils ont amené la démocratie, l'esthétique.
L'époque des Lumières,
oui, d'accord. Mais c'est quand même de la lumière de la sagesse, ça existe. Hein, que tu dis quoi? Ah, ça veut donc dire qu'en fait, les Chachamim ont dit que la Grèce, c'est effectivement une lumière. Or, comme nous aussi, nous avons une lumière, leur lumière obscurcit la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a rivalité entre deux lumières. Donc, pour notre lumière, la lumière des Grecs, c'est l'obscurité. C'est vrai que la Gemara dit que lorsque la Torah a été traduite en grec, l'obscurité s'est abattue sur le monde pendant 3 jours. Comme une éclipse. Alors, mais non, c'est quoi cette histoire de rivalité entre lumière? Tout simplement, la lumière grecque, c'est la lumière de la sagesse. Or, la lumière de la Torah n'est pas une sagesse. C'est quoi la Torah? C'est une parole. C'est la parole de Dieu qui est adressée à des hommes. À quels hommes? À Israël. Et les Grecs, quand ils ont vu la Torah pour la première fois, vous savez ce que ça leur a fait? Ils en étaient paf. C'est-à-dire, il y a une admiration extraordinaire de la Torah par les Grecs. Par exemple, il y avait un... Comment? Ils ont rencontré... Je vais vous raconter deux petites histoires importantes à ce propos. Tout d'abord, la rencontre qu'il y a eu, un des plus anciens récits de rencontre avec les Grecs, c'est la rencontre d'Aristote avec un juif. C'est raconté par Cléarque. Cléarque était un élève d'Aristote. Il raconte que son maître Aristote a rencontré un sage juif du nom de Shimon. C'est probablement Shimon HaTzadik, Shimon le Juste, comme on dit. Et Cléarque dit que Aristote a été très bien impressionné par ce juif qui était tellement sage qu'on l'aurait pris pour un grec. C'est-à-dire que le critère de la sagesse ou même des valeurs bichrales chez les Grecs, si ça correspond au schéma qu'ont les Grecs du monde. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité de considérer l'autre comme étant quelque chose de véritablement différent. Autre histoire, c'est à l'époque de Ptolémée de Philadelphie. Vous savez qu'après Alexandre le Grand, il y a eu une dynastie de rois macédoniens, grecs donc, en Égypte, dans la ville d'Alexandrie. Et le deuxième roi de la dynastie, qui s'appelait Ptolémée II Philadelphie, a décidé de faire quelque chose de grand pour les Juifs. Il a décidé de traduire la Torah en grec, ce qui a donné la Septante. Et il faut bien comprendre que du point de vue des Grecs, c'était quelque chose d'extraordinaire de traduire un livre en grec, un livre étranger, un livre barbare, pour lui donner une place d'honneur dans une étagère à côté des œuvres d'Aristote et de Platon. Ben oui, ça, il disait, c'est extraordinaire. Vous autres, les Juifs, vous avez donné un grand cadeau au monde. Vous avez amené un livre très important. Heureusement que nous sommes là, nous les Grecs, pour le sauver de l'oubli. Nous allons le faire participer à la culture générale.
C'est pour ça qu'il a exposé à la bibliothèque d'Alexandrie.
C'est pour ça qu'elle a brûlé, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Comment ? Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que les Grecs ont pensé qu'ils pouvaient introduire, disons, engloutir la Torah dans la sagesse universelle. Or, ça, c'est absolument blasphématoire pour nous autres, mais les Grecs ne pouvaient pas le comprendre. C'est pour ça que on dit dans le Alanissim, dans la version séfarade, l'empire scélérat des Grecs s'est levé contre ton peuple Israël, les Ashkiham mitoratera, pour les faire oublier de ta Torah. C'est-à-dire qu'ils ont voulu la Torah, mais ils ont voulu supprimer Israël. C'est-à-dire qu'ils ont voulu garder la Torah en tant que sagesse, mais si c'est une sagesse, c'est universel, donc il n'y a pas besoin d'Israël. Et donc quand les Juifs ont voulu quand même garder leur particularisme, c'était intolérable pour les Grecs. C'est pour ça qu'ils ont commencé à nous persécuter. C'est-à-dire que pour les Grecs, le comportement des Juifs était absolument incroyable. Comment ? Alors que vous êtes des sages parmi les sages, vous êtes des Grecs parmi les Grecs, vous voulez vous particulariser ? Non, vous allez être comme tout le monde. C'est-à-dire que pour les Grecs, tout le monde est grec. Il y a des Grecs grecs, il y a des Grecs égyptiens, des Grecs phéniciens, il y a des Grecs juifs. D'accord ? L'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose de totalement différent, une altérité absolue, ça ne traversait pas l'esprit. Donc ils ont violemment réagi contre le particularisme d'Israël. Mais le problème qu'il y avait, c'était peut-être que les Grecs ont raison quand même. C'est-à-dire, dans un monde où il y a des prophètes, on ne peut pas se tromper. Parce que la parole est adressée à Israël et pas adressée à d'autres. Mais à partir du moment où il n'y a plus de prophètes, peut-être que la Torah n'est plus qu'une sagesse. C'est pour ça que la victoire militaire n'a pas été suffisante pour nous rassurer. Il a fallu un clin d'œil du Créateur à travers le miracle de la fiole d'huile pour nous dire non, il y a quelque chose de particulier à Israël, et c'est ça qui nous permet de tenir le coup pendant tout le temps de l'exil avec la lumière de Hanouka. Oui.
Comment ont disparu les Grecs ? La civilisation grecque,
elle a disparu par... Non, elle a...
Non, mais non. Leur influence et leur puissance...
Il y a eu la culture romaine et hellénistique qui a continué donc la tradition grecque. Et puis après, il y a eu l'effondrement de l'empire grec et romain par les barbares. Donc il y a eu une sorte d'éclipse de la tradition antique pendant quelques siècles. Et puis après, ça a repris avec les lumières de la Renaissance et l'ère des Lumières et tout ça. Donc la civilisation grecque continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Elle est la fondatrice de la civilisation occidentale. D'accord ? Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.